France Cardinal Raymette, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous retrouver, parce que c'est pas la première fois que l'on se parle, nous deux. Vous étiez venu il y a quelques semaines, moi, de ça, pour nous parler de votre livre « Quand la vie se fragilise », un guide pour vous et vos proches aidants. C'est publié chez Multimonde. Et ben, on a eu envie de réitérer l'expérience. Mm-hmm. Et vous êtes là maintenant à titre de chroniqueuse dans le cadre de C'est bon pour la santé. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, je le disais tout à l'heure, peut être assez confrontant pour les familles, parfois inévitable. Et ça va toucher beaucoup, beaucoup de personnes, notamment dans une société vieillissante comme le Québec, à savoir, est-ce que notre parent, notre mère, notre père doit aller dans une résidence pour personnes aînées? Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des enfants se disent « je pense qu'on est rendu là ».
Je pense que c'est la détérioration et la fragilité de la santé de la personne. Il y a des changements qui surviennent. On a même vu des situations où les enfants ne demeurent pas à proximité de leurs parents et les visitent pour les vacances et tout à coup se rendent compte qu'il y a eu une dégradation. Par contre, du côté du parent aîné, ça peut être un choc d'être questionné par ses enfants et de se faire dire « je pense que ce serait le temps de penser à aller en résidence ». Alors, je pense qu'il faut prendre ça avec un bémol parce que ça nécessite une grande réflexion, puis on n'a pas à réagir là, instantanément. Je pense qu'il faut réfléchir comme il faut. C'est une délicate question et délicate en ce sens qu'on envisage alors une perspective de changement de milieu de vie.
Oui.
Et ça fait peur.
Et de routine également,
oui.
Et d'environnement.
Tout à fait. Alors, l'inconnu fait peur à l'être humain et c'est normal. Alors, est-ce qu'il est possible de faire face à cette nouvelle réalité-là pour la transformer en une expérience plus positive? Bien, certainement. Et comment? Bien, en se préparant, premièrement, en la percevant ou en la visualisant plus comme une occasion d'échange avec ses enfants, de la part de l'aîné, plutôt qu'une menace qu'il faut à tout prix éviter.
Ouais.
Alors ça, c'est important. Puis même, je vais en parler peut-être plus en détail un peu plus tard, mais il faut se préparer même avant de perdre ses facultés à cette éventualité-là et exprimer à ses proches ses souhaits, hein, comment on envisage ça pour le futur. Alors, j'avais préparé un petit exercice, Marianne, de petites questions qu'une personne aînée peut se poser pour mieux saisir pourquoi les enfants abordent cette question-là. Alors, elle pourrait se demander, mais pourquoi cette question-là survient maintenant? Alors, moi, comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je suis ouvert ou je suis plutôt paniquée? Puis pourquoi? Aussi se questionner sur sa santé elle-même. Comment ma santé évolue-t-elle là, dans le moment? Est-ce que j'ai des signes de fragilité? Par exemple, est-ce que j'ai fait plusieurs chutes dernièrement? Est-ce que ma sécurité est menacée? Est-ce que ma mobilité n'est plus la même? Est-ce que j'ai de la difficulté à préparer mes repas, à me laver moi-même, à me mobiliser dans mon appartement?
La confusion aussi. Est-ce que je suis confus? Je me sens perdue?
Oui. Tout à fait. Problèmes de mémoire qui peuvent survenir. Maintenant, les capacités sensorielles, on n'en parle pas si souvent que ça, mais elles sont présentes chez les aînés. Des difficultés à entendre, des difficultés à voir, hein, la baisse visuelle, tout ça qui peut survenir, on le sait. Alors, il y a aussi tout l'aspect du réseau social. Il y a des gens qui sont très, très isolés dans leur domicile. Ils vont faire aussi des oublis. Moi, je l'ai vécu avec ma mère, où un matin, elle m'a dit « Écoute, je me suis réveillée, puis j'avais oublié de verrouiller ma porte pendant la nuit. » Alors ça, c'est inquiétant.
Il y a l'inquiétude de l'entourage.
Oui.
Ça aussi, souvent, c'est un moteur. « Je m'inquiète pour toi, papa, maman. Je pense que tu serais mieux encadré. Le cheminement serait préférable dans une résidence plus surveillée. » Mais il y a différents types aussi de résidences, je pense, France.
Oui.
Et ça, il faut quand même s'y attarder. C'est un questionnement à se poser aussi.
Oui, parce que est-ce que c'est la solution ou l'option la plus appropriée pour la personne? Peut-être, puis peut-être pas. Hein, ça dépend. Parce que si on s'adresse aux résidences privées, bien, les résidences, évidemment, offrent une panoplie de services, d'activités de toutes sortes. Et elles s'adressent en général aux aînés autonomes, semi-autonomes, mais peuvent aussi offrir des services, des soins à la carte pour des gens qui commencent à avoir certaines pertes. Il y a aussi des résidences qui proposent des unités vraiment là, qui offrent des soins plus spécialisés, entre autres pour les problèmes cognitifs ou pour des problèmes de santé multiples complexes. Alors, il y a des unités, il y a des soins plus intensifs qui sont offerts. Mais il faut compter en moyenne, là, j'ai été voir les chiffres, là, pour des gens qui sont autonomes, semi-autonomes, en moyenne 2 200 par mois comme coût. Et pour des gens qui nécessitent des soins plus intensifs, on parle de 3 500 par mois en moyenne, mais ça peut aller plus haut que ça.
Il faut avoir le budget aussi.
Oui, c'est un autre élément à considérer, effectivement.
Donc, lorsque vous parliez, France, et ça, c'était assez judicieux de dire il faut s'y préparer, peut-être même y réfléchir avant d'avoir perdu certaines facultés. Il faut aussi, du point de vue financier, y penser avant et prévoir ce passage-là.
Moi, ce que je crois que l'idéal aussi, c'est de se familiariser avec les ressources qui existent. Alors, on sait qu'il y a les CLSC dans chacun des quartiers. Alors, il y a des organismes communautaires. Il y a aussi des services privés à la carte qui peuvent être achetés, qui sont peut-être moins coûteux que d'aller en résidence. Alors, c'est l'ensemble. C'est quand on rassemble tous ces services-là ensemble qu'on peut maintenir la personne. Hein. On dit toujours le domicile, le premier choix. N'empêche que ça, quand on va en résidence, le CLSC peut s'y présenter aussi. Hein. Quand c'est une résidence privée, on peut avoir les services du CLSC également. Il ne faut pas penser que c'est impossible.
Oui.
Alors, voilà pour ça. Puis, il y a la question, les gens vont dire, il y a quelque temps, on dit, ma fille veut me placer dans un centre d'hébergement.
Oui, on
entendait ça. Mais les centres d'hébergement de longue durée, maintenant, s'adressent vraiment uniquement aux problèmes de santé très complexes. Puis on n'entre pas dans un CHSLD ou centre d'hébergement de longue durée comme ça. Hein. Ça prend vraiment une évaluation médicale, évaluation d'une équipe du CLSC très souvent ou d'un centre hospitalier où vraiment la personne est en complète perte d'autonomie, a besoin d'une intensité de soins importante à tous les jours. À ce moment-là, ce sera admissible un CHSLD. Mais autrement, il existe d'autres sources intermédiaires, alternatives aussi, entre la résidence privée et le CHSLD qui sont disponibles. Et ce sont les intervenants des CLSC, entre autres, et des centres de santé qui pourront guider la personne.
France, à qui revient le choix lorsque la personne aînée a perdu beaucoup de facultés ou est très malade?
Le choix lui revient. Maintenant, il y a toujours la notion d'aptitude et d'inaptitude. Alors, quand la personne est apte à prendre ses décisions, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'incapacité à prendre soin d'elle-même et de gérer ses biens, ses affaires, à ce moment-là, c'est à elle que revient la décision. Tant qu'il n'y a pas un programme de protection d'ouvert, c'est à l'adulte, quel que soit son âge, à prendre ses décisions, malgré tout.
Okay.
Maintenant, j'aimerais aborder la notion un peu d'inaptitude. Qu'est-ce que ça signifie? C'est souvent confus pour les gens. Alors, l'inaptitude, je le répète, se définit par l'incapacité, dans le fond, de prendre soin de soi et d'administrer ses biens, mais elle peut être partielle ou totale, temporaire ou permanente.
Ah oui.
Et peut-être le résultat d'un grave accident, d'une maladie dégénérative, d'une maladie mentale, ou problème de santé mentale, devrais-je dire, d'un accident vasculaire cérébral, entre autres. Alors, ça peut être des problèmes d'Alzheimer, il y a différents problèmes là, qui peuvent survenir. Alors, c'est pourquoi on dit que les gens devraient se préparer à l'avance et rédiger leur mandat de protection, mieux connu sous le nom de mandat en cas d'inaptitude. Alors, mais présentement, on l'appelle mandat de protection, c'est le vrai terme. Alors, qui peut rédiger son mandat? Bien, la personne elle-même, à l'aide d'un formulaire, là, peut le rédiger, mais il doit être signé par deux témoins qui ne sont pas visés par le mandat lui-même.
Okay.
Alors, des gens extérieurs. Ça peut être un voisin, un ami, bon. Et il y a l'autre façon qui est plus formelle, c'est d'aller voir un notaire. Il y a des avocats aussi qui peuvent le faire, mais le plus souvent, c'est le notaire, là. Qui est en mesure aussi de le conseiller, la personne, de l'aider à formuler clairement ses volontés. Alors, lui conserve l'original et remet une copie à la personne et il va, tout comme l'avocat, inscrire le document dans un registre officiel prévu à cet effet.
Oui, et ça peut être assez utile lorsqu'il est temps d'aborder ces questions un petit peu plus délicates. D'ailleurs, on remercie votre fils, France Cardinal Rémette, qui est notaire, hein,
oui,
je
François,
pense.
François Rémette, oui.
Et qui vous a donné un petit coup de main. En terminant, il nous reste à peine une minute, France. Quand cette décision-là rend le climat familial un petit peu tendu, plus confus, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent servir de médiateurs, à qui on peut se référer pour nous aider à réfléchir, orienter les discussions? Vous parliez tantôt du médecin. Le médecin de famille peut servir à ça. Il y a peut-être un notaire, le notaire de la famille.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut se référer à d'autres personnes?
Mon expérience, moi, j'étais directrice des services à domicile dans un CLSC dans l'ouest de l'île. Et le plus souvent, c'était le travailleur social qu'on affectait à ce genre de problématiques-là. Et c'était toujours un succès. Les travailleurs sociaux étaient tellement, tellement près de leurs patients, puis prenaient le temps de discuter avec la famille, puis finissaient par trouver une solution ensemble.
Oui. Donc, on se réfère à notre CLSC dans notre région, dans notre quartier.
C'est ce que je suggère le plus possible.
France Cardinal Remède, je le disais tout à l'heure, vous êtes auteur de ce livre-là qui peut être extrêmement outillant quand la vie se fragilise chez Multimonde. Mais ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que vous êtes également infirmière de formation. En ce moment, vous êtes chargée de cours à l'UDM auprès de futures infirmières. Donc, vous êtes vraiment dans ce bain-là pour continuer à nous outiller en matière de santé. Merci beaucoup pour cette première chronique. Ça a été très, très informatif.
Merci.